Bonsoir et bienvenue à notre séance sur les leçons 14 et 15. Nous continuons à travailler sur notre perception, sur notre compréhension du monde. Et nous, toute autre vision du monde et de l'existence existe. Un monde de bonté et de douceur et de beauté nous attend. Et nous sommes toujours en train de faire de la place pour cette vision. Les leçons 14 et 15 vont nous aider dans ce sens, vont amorcer ce travail de préparation pour recevoir cette magnifique vision du monde tel qu'il est, tel que notre soi le perçoit, le voit. La leçon 14 nous dit: ce que nous voyons n'est pas l'œuvre de Dieu puisque ça manque de signification. Donc déjà une petite bombe atomique. Donc, ce que nous voyons n'est pas la création de Dieu, n'est pas l'œuvre de Dieu, donc, et qui fait fi, en quelque sorte, de tout ce que bien d'autres spiritualités et surtout d'autres des religions voudraient dire. Mais c'est un principe du cours que Dieu n'a pas créé ce monde. La leçon, nous allons discuter. Dans la leçon 15, nous comprenons que ce que nous voyons et ce que nous avons projeté de notre esprit sur le monde. En fait, déjà, le monde est une projection, et la façon dont nous comprenons le monde est notre projection aussi. Donc, dans la leçon 14, nous comprenons que ce que nous voyons n'est pas l'œuvre de Dieu. Dans la leçon 15, nous comprenons que ce que nous voyons, en quelque sorte, est notre œuvre, puisque c'est la projection de nos pensées. Donc, dans ces deux leçons, nous entamons un grand travail métaphysique. On peut dire que c'est une soirée un peu explosif métaphysiquement. Donc, je vous invite à vous accrocher un petit peu. On va parler de la stratosphère de la métaphysique, mais sachez que l'idée du cours n'est jamais de nous faire pratiquer sur ce niveau-là, même si, effectivement, c'est dans ce sens-là que nous allons en parler. Que Jésus en parle dans ces deux leçons. Dans son ensemble, globalement, le cours ne nous demande pas de nier la réalité de ce monde, mais du tout. Au contraire, notre travail, c'est spécifiquement de regarder ce que nous voyons très clairement et d'observer nos réactions. Mais nous allons en parler, c'est un sujet important ce soir. Très bien, voici la leçon 14. Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Donc, celle-ci est en quelque sorte la suite logique des leçons précédentes qui nous ont fait comprendre que ce monde manque totalement de signification ou de sens propre, de sens inhérent. Et pour aller plus loin, nous voulons comprendre que puisque ça manque de signification, cela ne peut pas être la création ou l'œuvre de Dieu sur seul ce que Dieu crée a de la signification. Donc, ce monde n'est pas de Dieu, puisqu'il n'y a pas de signification. Ça semble peut-être un peu théorique pour l'instant, mais au fur et à mesure que nous étudions déjà les leçons dans le livre d'exercice, mais le cours en général dans nos parties textes, nous allons comprendre à quel point cette idée est importante. Puisque nous allons voir, peut-être avec ces exercices, comment nous cherchons toujours à donner un sens et une signification et une importance et une interprétation à ce monde qui, insidieusement, va simplement servir les buts de notre ego, ce qui est d'exister dans un monde qu'il considère réel. Et donc, c'est très important de revenir à ce principe qui dit que ce monde n'a pas de signification inhérente. Et donc, nous devons chercher ailleurs que là où nous avons toujours cherché et trouvé un sens, une interprétation, une perception à ce monde. Mais encore, ce n'est pas le moment d'aller trop profondément dans cette idée-là. Cette première leçon donc, ce soir. Cette leçon de 14 contient donc quatre messages principaux. Ce monde n'est pas divin, il ne vient pas de Dieu. Il n'est pas réel puisque seul ce que Dieu crée existe. Les désastres que nous voyons ne sont pas la volonté de Dieu. Et ce monde est notre propre fabrication. ce qui est proprement dit le domaine de la leçon 15 que nous allons aussi toucher tout à l'heure. Quelques mises en garde avant de commencer, parce que cette leçon peut être aussi facilement être interprétée par notre ego à sa guise. Tout d'abord, Jésus ne voudrait, n'attend pas que nous comprenions et encore moins que nous vivions cette leçon dans sa profondeur, dans sa totalité, tout de suite. C'est une façon d'établir en quelque sorte un cadre métaphysique absolument immense pour notre travail ici, mais l'idée n'est pas de vivre ce cadre métaphysique tous les jours. Ça encadre notre travail, mais le travail que nous faisons se fait à l'intérieur de ce cadre. Le travail n'est pas le cadre lui-même. Donc, par exemple, le travail ne consiste pas à dire tous les jours, ce monde n'existe pas. Même si c'est le sens de cette leçon, même si en quelque sorte c'est ce qui dit dans cette leçon quand il dit Dieu n'a pas créé cette guerre, donc elle n'est pas réelle, le travail quotidien n'est pas à ce niveau métaphysique. Donc, on peut dire un troisième conseil, c'est juste de rester normal, de ne pas chercher, essayer d'utiliser cette leçon pour faire un genre de balayage global sur tout ce qui se passe dans ce monde et prétendre que ça n'existe pas pour nous, puisque ce n'est pas le travail de Dieu, ce n'est pas la création de Dieu. La règle d'or ici, c'est de rester normal, rester attentif à notre expérience et de ne pas se servir d'une leçon comme celle-ci, ni la leçon 15 non plus, comme pour gommer notre expérience, comme pour prétendre que puisque dans mon soi, dans mon grand soi comprend que ce monde n'est pas le travail de Dieu, la création de Dieu ne l'a pas créé, donc je n'ai pas besoin de prêter attention à ce monde. Donc, on veut être attentif à nos réactions réelles à ce qui se passe dans ce monde. Mais nous allons justement faire un exercice dessus très vite. Nous voyons très vite dans cette leçon l'aspect métaphysique, puisque cette leçon parle de la plus haute sphère de la non-dualité. Le cours du miracle est une philosophie non-dualiste pure, ce qui veut dire que sa philosophie n'admet aucune possibilité de réalité à ce monde. D'autres philosophies non-dualistes, notamment dans l'hindouisme, certaines branches, certaines familles dans l'hindouisme parlent de lila ou leila, selon la prononciation, ce monde comme un genre de terrain divin pour Dieu, ou un jeu divin de Dieu. Et donc, qui donne un certain aspect de réalité à l'illusion de ce monde. Ce monde n'a aucune réalité ontologique selon un court miracle. C'est pure illusion et même l'illusion n'a jamais existé. Et notre apprentissage va nous guider à ouvrir notre esprit d'une telle façon à ce que nous allons pouvoir pas simplement comprendre, mais en avoir une expérience de ce monde d'une façon totalement différente pour que nous puissions comprendre comment nous pouvons être en train de vivre un monde qui n'a jamais réellement existé. Bien sûr, c'est un peu la stratosphère, tout en haut de l'échelle de cette philosophie, mais il faut parler de ce niveau tout de même si ça reste un peu lointain pour nous. Maintenant, ce genre de leçon, comme d'autres, va nous emmener naturellement ou inévitablement vers un certain niveau de peur et de résistance. Elle peut être même profondément déroutante. Il ne faut pas sous-estimer notre dérangement. Il faut l'observer. Il faut que nous devenions les accompagnateurs de notre expérience, que essayons d'imaginer comment un Jésus ou un ami sacré ou saint peut nous aider à appliquer cette leçon. Donc, quand il dit dans le premier paragraphe, ce que Dieu n'a pas créé n'existe pas et tout ce qui existe existe tel qu'il a créé. Le monde que tu vois n'a rien à voir avec la réalité, c'est toi qui l'as fait, il n'existe pas. Ça sera normal de ressentir un certain malaise, de l'anxiété. d'avoir une certaine difficulté avec cela. L'idée n'est pas de prétendre de n'avoir aucune réaction négative avec cette leçon. Ça serait vraiment contraire à l'opposé de ce que nous essayons de faire ici. Nous voulons simplement comprendre, chercher à comprendre, chercher à comprendre, mais en étant très attentif à notre expérience qui va nous guider vers le travail que nous devons faire. L'idée n'est pas de répéter la réalité. Ce monde n'existe pas. L'idée, c'est de travailler avec ce que cela nous fait, de songer à ce niveau de réalité, de voir notre existence. Ouais. Cela va produire de la peur. Il en parle dans le troisième paragraphe. Les premières étapes de cet échange qui peut véritablement être appelé le salut peuvent être assez difficiles, même assez douloureuses. Certaines d'entre elles te mèneront directement dans la peur. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que ça fait autant peur? Et peut-être vous l'avez deviné si vous avez suivi les autres leçons que nous avons faites jusqu'à maintenant. Curieusement, ça ne nous fait pas si peur que cela de penser que tout ce dont il parle ici, les guerres, les accidents d'avion, les désastres quelconques, cela ne nous fait pas si peur que ça, de penser que cela existe. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, déjà, on le trouve familier. Et dans ce monde-là, si ces catastrophes existent, moi, j'existe. Je peux exister dans un monde où de telles choses existent. Je ne le trouve pas forcément confortable. Ça ne me plaît pas personnellement. Mais je ne le trouve pas spécialement dérangeant à un niveau existentiel ou métaphysique ou ontologique. Par contre, tu me dis que la guerre n'existe pas, ces désastres n'existent pas, l'accident d'avion n'existe pas, l'accident de voiture n'existe pas. Cela me mène automatiquement à penser que peut-être moi, je n'existe pas non plus si toutes ces choses n'existent pas. Voilà, on peut imaginer simplement en répétant ces idées que quelque part dans notre subconscient, on va commencer à dire, non mais attends, si ces choses n'existent pas, cela m'implique aussi personnellement. N'ayons pas peur, Jésus prévient cette difficulté, il en parle également dans le troisième paragraphe où il dit, tu ne seras pas laissé là, tu iras bien au-delà. Nous nous dirigeons vers la parfaite sécurité et la paix parfaite. Et nous devons vraiment lui faire confiance et savoir que nous sommes accompagnés. Nous avons une présence avec nous qui ne nous quittera pas si nous lui demandons de nous accompagner et de nous aider dans cette démarche de détricoter et défaire toutes nos conceptions de ce monde. Très bien. Comment comprendre cette leçon? Il y a deux niveaux de compréhension. Premier niveau, c'est ce qu'on appelle niveau 1, c'est le niveau métaphysique. Sur ce niveau-là, la leçon doit être comprise littéralement. C'est-à-dire, ce monde n'est pas la création de Dieu et donc il n'existe pas. C'est moyennement aidant pour nous là où nous sommes aujourd'hui, même s'il y a quand même des aspects réconfortants. Aussi bien, je sais que je viens de dire que c'est dérangeant, aussi bien c'est dérangeant, on peut aussi voir quand même un petit côté réconfortant, parce que nous pouvons espérer à connaître cet autre monde dont Jésus parle en long et en large, qui s'appelle le monde réel, ou le ciel, ou notre vraie demeure. Nous pouvons aspirer à le connaître, un monde sans guerre, sans désastre, sans accident d'avion. Une autre façon de comprendre cette leçon, c'est ce qu'on appelle au niveau 2. Au niveau 2, c'est une fois que nous avons accepté la séparation et nous nous trouvons ici, nous essayons de travailler avec les symboles de ce monde. Et de poser, de trouver une nouvelle interprétation pour donner un sens aux symboles que nous voyons ici. Donc, on peut constater qu'il se passe des choses ici. Ce n'est certainement pas une question d'éviter de ce qui se passe ici. C'est simplement, donc C'est simplement que le sens que nous avons donné à ces choses n'est pas le sens que nous avons toujours, leur avons toujours donné. Donc, cette leçon peut aussi nous emmener et être comprise sur ce niveau-là. Elle n'est pas réelle. Je peux comprendre ce que je vois autrement. Au lieu de juste balayer et dire ça n'existe pas, je n'ai pas besoin de prêter attention à cela, on peut l'utiliser pour dire bah, tiens, il y a peut-être une autre façon de le comprendre parce que je vois quelque chose, je vois un accident, je vois une guerre, je vois une famine. Quelle est la réaction? Ma réaction vient d'une interprétation que j'ai faite, une interprétation que j'ai posée sur ces personnes mourantes, sur cette scène de désastre. Quelle est l'autre interprétation que je peux donner? À ce moment-là, nous pouvons ouvrir notre esprit à notre guide qui pourrait nous dire, mais il y a autre chose qui se passe en même temps. Il y a toujours autre chose qui est en train de se passer. Cette guerre n'est pas réelle telle que nous le pensons, telle que nous l'avons conçue. Nous pouvons par exemple nous souvenir qu'à chaque instant, chacun impliqué dans ces situations difficiles est entouré de l'amour de Dieu. À chaque instant, chaque esprit partage son esprit, son être, avec le petit soi, mais aussi avec le grand soi. À chaque instant que quelqu'un pense être perdu dans un cauchemar de séparation, il est aussi en sécurité dans un autre lieu, dans une autre demeure. À chaque instant que les bourreaux et les victimes sont en train de se battre, il y a autre chose qui les lie dans une unité que nous n'avons pas encore complètement comprise. Donc, sans faire disparaître l'événement entièrement, nous pouvons aussi travailler sur le niveau 2 pour essayer de le comprendre différemment. Maintenant, la méthode du cours encore n'est pas juste de tout gommer et dire ça n'existe pas. Nous voulons, et Jésus nous donne une indication de ce que c'est cette méthode dans le paragraphe 3 quand il dit, l'idée d'aujourd'hui est une autre étape pour apprendre à lâcher prise des pensées que tu as écrites sur le monde et avoir la parole de Dieu à leur place. Donc il parle ici d'une lâcher prise que nous pouvons dire doit être lente et progressive. Et notre idée ici est de voir par exemple, avec une leçon telle que celle-ci, la réalité niveau 1, la réalité métaphysique, puis notre expérience, et de voir le décalage entre les deux. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On a le cadre métaphysique. Cela ne devrait pas nous déranger, puisque ce n'est pas réel, ce n'appartient pas au monde de Dieu. Je me sens dérangé. D'où vient ce dérangement? Donc, le cours veut qu'on travaille plus à ce niveau-là avec nos réactions par rapport à ce que nous voyons, en le mettant dans un cadre plus grand, en disant, ce monde n'est pas censé, cette guerre n'est pas censée exister, je sens que ça existe et ça me travaille profondément, donc j'observe mes réactions, je regarde mes jugements. Et je me pose des questions très intéressantes et très utiles sur mes réactions et mes jugements pour savoir d'où ils viennent. Ce processus de remettre en question nos réactions et nos jugements pour accueillir une autre interprétation, une autre perception, s'appelle le pardon. Notre vrai travail dans nos cours est le pardon, la remise en question donc de nos réactions. Quand nous voyons une crise, en la comparant avec une leçon telle que celle-ci, qui nous apprend une vérité extraordinaire et inatteignable pour nous pour l'instant. Maintenant, pour la vraie pratique de cette leçon, dans le paragraphe 4, Jésus voudrait qu'on dise que Dieu n'a pas créé cette guerre, donc elle n'est pas réelle. Dieu n'a pas créé cet accident d'avion, donc il n'est pas réel. Ce n'est pas des phrases anodines. Elles peuvent nous heurter, elles peuvent nous choquer. Donc, un petit exercice pour nous, si vous voulez bien participer, c'est partager avec nous. ou juste réfléchir, si vous regardez ceci en replay, à vos réactions quand vous réfléchissez aux guerres, aux catastrophes, aux accidents qui se produisent dans ce monde. Quelle est votre réaction? Encore, au lieu de juste le gommer, on comprend ce que Jésus veut qu'on fasse, mais on veut rester attentif à nos expériences, à nos réactions. Quelle est votre réaction quand vous écoutez, par exemple, que les événements qui viennent de se dérouler depuis 10 jours dans le Moyen-Orient n'ont pas été créés par Dieu, donc elles ne sont pas réelles? Ils ne sont pas réels en parlant de ces événements. Ou en pensant à toute autre chose. Quelle est votre réaction réellement quand vous entendez ce genre d'idée? Et soyons attentifs, ce n'est pas, on ne veut pas gommer notre expérience. On ne veut pas, ce que Kenneth appelait, sauter les étapes et dire, ah ben non, j'appartiens au monde de Dieu, l'ego n'existe pas, seulement soi est réel. L'idée est d'être là où nous sommes et d'accepter là où nous sommes, avec toute notre fragilité, sentiment de vulnérabilité, nos sensibilités par rapport à la souffrance d'autres personnes. Donc il n'y a absolument rien de mal à nous rencontrer là où nous sommes et accueillir notre expérience. Donc si vous avez envie de participer, de mettre un petit mot dans le fil de chat ou de mettre un petit chiffre entre 1 et 10, c'est-à-dire une réaction très très forte, très dérangée, ou un 1, non, vraiment, ce qui se passe dans le monde ne me fait pas réagir du tout. Et donc, je pourrais faire profiter d'autres personnes ou faire profiter des personnes qui regardent ceci en replay. Je pense que ce sera vraiment rare la personne qui peut vraiment faire abstraction de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment avec les différents niveaux d'instabilité. Ouais. On n'a même pas besoin regarder vers le Moyen-Orient, ici en Europe en tout cas, on a juste besoin de regarder à notre frontière avec l'Ukraine et de savoir, ou avec la Pologne, pour savoir que la guerre et le danger n'est pas loin. Sinon, on peut aussi regarder vers l'environnement, le changement climatique. Notre but n'est pas de chercher tout ce qui est négatif. Notre but est d'utiliser ce qui est négatif pour apprendre sur le positif. Et comment le positif fonctionne malgré le négatif dans ce monde. Donc, si vous trouvez ces exercices un peu déprimants, je vous encourage à les voir différemment. Voilà. Ce n'est pas pour mettre l'accent sur le négatif, c'est pour l'utiliser comme un tremplin pour accéder à une autre partie de notre esprit. Donc, je vois quelques commentaires qui sont entrés. Donc, c'est très dérangeant et déstabilisant. Pourtant, il y a des morts. Alors, c'est difficile à accepter que c'est une réalité déformée par mon esprit. Ça me révolte, je ne suis pas d'accord d'entendre ça. Cette idée, cela me fait goûter la confusion. Je tiens tellement à être en colère. Je tiens tellement à être en colère et triste vis-à-vis de la situation. Ah, très, très, très intéressante remarque, hein, Loïc, merci. Je tiens tellement à être en colère. Ça sera presque ignoble, moi j'ajoute, de ne pas ressentir une grande tristesse face à ce qui se passe. On peut entendre, j'ai entendu dans d'autres groupes. Ça sera un affront de ne pas être profondément dérangé par ce qui se passe. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de souffrance. Souvenez-vous peut-être de nos autres leçons. C'est pour dire dans le cours, la souffrance existe. Elle n'est simplement pas, elle n'a pas l'origine à laquelle nous pensons. Elle n'est pas à cause, il y a la souffrance secondaire, ce que nous sommes en train de voir, et la souffrance primaire, la souffrance ontologique, est le vrai niveau de souffrance sur lequel nous voulons nous focaliser pour savoir que cette souffrance-là, elle est inhérente dans le petit soi, et le petit soi est un choix. Donc nous voulons aller de l'extérieur vers l'intérieur, vers l'intérieur de l'ego, vers l'intérieur du soi, de l'intérieur du soi vers l'intérieur de l'unité. Donc l'idée n'est pas de rester avec tout ce qui est le plus accablant de ce monde ici, mais d'avancer et de monter l'échelle vers la vérité derrière les apparences. Donc un autre qui dit, je ne peux pas croire que ce n'est pas réel. Excellent, très bien. Donc gardez, juxtaposons ces deux idées. Jésus qui dit ici, ce n'est pas réel parce que Dieu ne l'a pas créé, et moi qui j'écris, parce que c'est écrit en majuscule, je ne peux pas croire que ce n'est pas réel. Une autre personne, tristesse, compassion et peur, ok, et qui dit que j'ai... Désolé, Anne, je n'ai pas très... J'ai pas bien compris votre commentaire. D'ailleurs, je ne reconnais pas votre nom. Donc, si vous êtes ici pour la première fois, aussi bien que d'autres personnes, soyez le bienvenu. Merci beaucoup de venir nous voir ce soir. J'espère avoir l'occasion de vous voir à un autre moment. Fuite, colère, tristesse, très difficile de ne pas se laisser immerger quand il y a une souffrance intense. Encore une autre, je peux croire que cette guerre n'a pas de réelle signification, mais cela entraîne de la culpabilité en moi de ne pas être triste devant les personnes qui souffrent. On peut se permettre, il ne faut pas s'empêcher d'être triste, il faut comprendre notre tristesse, il faut comprendre d'où ça vient. Donc, si la tristesse est là, constatons la tristesse. Donc, s'il vous plaît, n'essayez pas de ne pas être triste en regardant ce qui se passe. Mais prenez soin de vous, ce qui veut dire soyez avec votre expérience, respirez. Sachez que votre expérience de tristesse n'est pas exactement ce que vous pensez. Il y a beaucoup de projections impliquées dans la façon dont nous souffrons pour d'autres personnes. On n'a pas le temps d'en parler là, tout de suite. Je continue. Cela souligne et accentue notre folie collective à penser ou à croire à cette idée de séparation. Encore un autre qui dit, que dois-je faire? Encore notre tristesse et colère. Je vois qu'il y a... Je vais essayer de vite de faire honneur à vos commentaires, mais on n'a pas beaucoup de temps. Le fait de savoir que ce n'est pas réel ne change rien à mes sentiments d'horreur et de peur. Même quand je lis ou regarde une fiction en restant consciente que c'est une fiction, je réagis très émotionnellement aux personnages et à ce qui leur arrive. Alors, à plus forte raison quand c'est le monde dans lequel je vis. Merci, Eve. Et encore une autre, sur le moment, je suis choquée de ce que nous, humains, faisons de nos vies, puis je ressens un amour profond qui relie. Merci, Catherine. Très joli. Et encore une dernière personne, regardez par la fenêtre et à ce que vous voyez, tout ce gâchis. Merci, Guy. Impossible pour moi de refuser la réalité des faits. Mon cœur souffre en voyant et en écoutant les reportages des guerres. Ce n'est certainement pas, encore une fois, une question de refuser la réalité que nous voyons. Nous essayons simplement de comprendre la réalité que nous voyons d'une façon différente. Mes amis, nos plus grandes difficultés ici est d'imaginer pour un instant que ce que nous sommes en train de vivre collectivement est un genre de rêve et n'est pas un genre de réalité. Cela n'enlève pas pour un instant la douleur et la souffrance dans ce rêve. Mais cela ne fait pas de ce rêve une réalité pour autant. Tout ce programme d'enseignement que nous avons entamé ensemble a pour but de nous apprendre que nous sommes en train de rêver un rêve collectif, puisqu'il y a une autre réalité. Ce livre est le signe qu'il existe une autre réalité. Ce livre n'a pas été écrit par une main humaine. Je défie la personne qui dit c'est un être humain qui l'a écrit. Je voudrais bien rencontrer l'être humain qui l'a écrit. Parce qu'il y a tellement de choses d'une inspiration tellement, tellement élevée que moi, je ne peux pas croire pour l'instant que c'est un esprit humain qui l'a écrit. Jésus ou l'esprit qui a écrit ce livre, si vous croyez que c'est Jésus ou non, c'est l'esprit qui l'a écrit. est le signe, la preuve qu'il existe d'autres réalités autour de nous à chaque instant. Et je vous invite à juste remettre ça aussi dans ce magnifique cadre. Il existe une autre réalité. Vu de la perspective de cette autre réalité, ce monde disparaît en importance, pas en réalité tant qu'on est ici. Et tout ce que vous avez dit ici est simplement un signe du point auquel vous vous attachez. Je m'inclus aussi au point auquel je m'attache. Nous nous attachons à ce qui se passe ici. Mais nous nous attachons à ce qui se passe ici parce que nous sommes attachés à cela. Et ce cours a pour but de nous aider à remettre en question l'importance et même la réalité de cela, de ça. Imaginez pour l'instant que nous ne sommes pas ça. Et les autres personnes qui sont en train de souffrir ne le sont pas non plus, le corps. Ce n'est pas une question de comprendre ça tout de suite. C'est une question de garder notre esprit ouvert à cette possibilité. Comme d'autres grands, grands maîtres nous ont essayé de faire croire, comprendre. Du côté de l'Orient, les Sri Ramana Maharshi, les Nisargadatta, les Nim Karoli Baba, l'Orient, c'est pratiquement l'Inde, et a connu beaucoup de très grands sages qui ont pu nous aider à comprendre que notre expérience humaine nous trompe. C'est tout ce que j'ai su essayer de faire avec avec cette leçon. Donc, je vous invite à réfléchir à tout cela. On va devoir avancer un peu. Et pour faire la petite transition vers ce que on va juste parler quelques minutes pour pour les expérimenter, faire la transition pour finir cette partie de cette leçon, je voulais vous lire un petit passage de la leçon 99 que je trouve aussi très touchant. Inébranlé, le Saint-Esprit regarde ce que tu vois, le péché, la douleur et la mort, le chagrin, la séparation et la perte. Or, il connaît qu'une chose doit encore être vraie. Dieu est encore amour. Et cela n'est pas sa volonté. Dieu est encore amour, et cela n'est pas sa volonté. Donc je vous invite à méditer cette idée, ces mots. Quand vous voyez ces scènes qui vous déroutent, qui vous font souffrir autant. Comme je me le répète aussi, parce que moi aussi, je suis profondément dérangé et je dois aussi faire l'effort pour garder mon esprit ouvert, tout comme vous. Donc, nous pouvons nous accompagner dans cette démarche en essayant de faire confiance de plus en plus à notre guide. Et surtout quand nous lisons des paroles comme celle-ci, qui sont signes qu'il y a autre chose, si nous nous laissons toucher par ces paroles. Très bien, c'est tout ce qui est nécessaire pour une première pratique de cette leçon. Maintenant, pour les étudiants expérimentés, nous n'allons pas avoir beaucoup de temps ici, parce que je tiens aussi dans cette séance complète à regarder la leçon 15. J'avais envie de vous inviter à aller encore plus loin et de contempler la possibilité que si, l'idée que si les choses dont Jésus parle ici dans cet exercice, la guerre, l'accident d'avion, le désastre, ces choses ne sont pas réelles parce que elles ne sont pas la création de Dieu, alors cela veut dire que bien, bien d'autres choses ne sont pas réelles non plus. Nous pouvons regarder le passé. Nous pouvons regarder les désastres passés au lieu de juste regarder les désastres présents. Nous pouvons regarder vers le Bataclan, Charlie Hebdo, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, la Révolution française, toute la période de la Renaissance, toute la période de l'Empire romain, de la Grèce antique, de l'Égypte antique, en remontant dans le temps. vers les périodes néolithiques. Réfléchissons à toutes ces différentes périodes que nous avons établies comme tellement importantes et tellement réelles. Remontons encore plus loin, vers la naissance de cette planète, la naissance de notre système solaire, vers la naissance de cet univers. Une explosion de proportions absolument incommensurables, inimaginables, le Big Bang. Et avant, qu'est-ce qu'il y avait avant? Silence pur, lumière pure, amour pur. Et c'est ce que c'est la réalité toujours. Ce qu'il y avait avant le Big Bang est toujours la réalité maintenant. Donc cela vaut vraiment la réflexion, la contemplation, la méditation pour inclure pour les étudiants qui ont déjà fait cette leçon une fois, qui reviennent dessus pour l'approfondir. Je vous invite à mettre bien d'autres événements, bien d'autres périodes, bien d'autres faits de ce monde et périodes de ce monde dans ce panier de tout ce que Dieu n'a pas créé. Et essayer de voir que de ce monde dans sa totalité n'est pas l'œuvre de Dieu et donc ce n'est pas réel. Comme pour chaque cours, nous avons préparé une fiche pratique pour accompagner cette leçon. Elle reprend les idées essentielles de la leçon et aide à les approfondir dans la pratique. Vous pouvez la recevoir gratuitement via le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et si ces enseignements vous sont utiles, vous pouvez aussi les soutenir en contribuant. Et voilà maintenant la leçon 15, mes pensées sont des images que j'ai faites. Ce qui est aussi la suite logique de la leçon précédente, si ce monde n'est pas la création de Dieu, on peut se poser la question, mais d'où est-ce qu'il vient? La réponse, c'est de nous. Et cette leçon est en train de dire, en fait, ça vient de nos pensées. Ce monde est une image que nous avons faite, mes pensées sont des images que j'ai faites telles que ce monde dans sa totalité. Tout d'abord, une petite mise en garde. Ce sont des images, mais ce sont des images très importantes pour nous. Donc, il ne faut pas nier la voiture qui nous fonce dessus, le feu dans la casserole, il ne faut pas nier le cambrioleur qui vient d'entrer de la maison, il ne faut pas dire que ce sont juste des images. Il faut faire attention à ces images comme si ce sont de la réalité et comme si elles ont une réalité objective. Et il vaut mieux qu'on fonctionne comme des gens normaux pour encore un bon bout de temps. Même si sur un arrière-plan, on veut essayer on veut commencer le processus à comprendre ce qui se passe ici sur un autre niveau. Donc Jésus, dans ce message, dans cette leçon, veut qu'on comprenne littéralement que ce sont des images. Nous pouvons trouver un petit rapprochement, peut-être hésitant avec la physique quantique. Parce que dans la physique quantique, on apprend que la réalité autour de nous est un genre de champ de probabilité de particules quantiques. Et ce qui fait que ces particules quantiques qui se trouvent à différents endroits en même temps s'effondrent pour former un objet objectif devant nous, c'est l'interaction avec un point d'observation ou avec un observateur, avec un instrument d'observation. Donc, on ressent quand même un peu dans la physique quantique que ce sont des images autour de nous qui existent par une interaction entre un genre de champs, dans c'est pas quoi, de choses qui sont pas matérielles, qui se sont pas matérialisées avant une interaction avec un point d'observation ou un observateur. Nous voulons aller bien sûr plus loin dans le cours pour comprendre que même ce que nous voyons autour de nous n'est qu'une illusion, mais même le champ quantique lui-même est aussi une illusion. Cela devrait nous rendre un petit peu anxieux de savoir que les objets autour de nous n'ont pas tout à fait un sens ou une réalité matérielle et objective telle que nous avons toujours conçue. puisque ce sont des projections de notre pensée. Donc, soyons rassurés, soyons accompagnés par notre guide qui nous dit, bah, c'est inconfortable, mais c'est juste pendant le temps que nous nous habituons à ce genre de pensée un peu étrange, et tout deviendra plus clair après. Deux messages importants dans cette leçon. Effectivement, il veut, avec ce message, avec cette leçon, secouer notre concept d'un monde extérieur objectif et matériel. Il veut aussi commencer le processus à basculer notre attention du monde vers nos pensées, si ce travail n'a pas été déjà fait par d'autres leçons. Parce que si le monde que nous voyons est le résultat de nos pensées, cela nous incombe, ou ça serait simplement intelligent, de commencer à porter plus d'attention à ce qui est en train de se passer ici, dans notre fonctionnement intérieur, que sur le monde. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cette leçon? D'où est-ce que son idée vient ici? C'est parce que l'origine, avant le Big Bang, comme nous avons vient d'entendre dans la leçon 14, avant le Big Bang, il n'y avait que unité pure. Ce qui a brisé l'unité pure, ce qui a semblé briser l'unité pure, c'est la pensée de la séparation. La pensée de la séparation était imprégnée d'une charge, d'une. La pensée de séparation est une pensée d'avoir voulu briser l'unité, la fracasser entièrement, pour que nous puissions exister individuellement et indépendants de l'unité. C'était une pensée d'une grande, grande violence. Le résultat de cette violence qui est restée dans notre esprit, c'est que nous avons cherché à fuir le danger qui était présent dans notre esprit. Ce monde qui est produit par les Big Bang est le résultat de ce désir, de ce besoin de fuir l'unité que nous avons cru devenue une menace, une genre de Dieu enragé qui voudrait nous tuer pour notre crime. En réalité, il n'y a que pensée pure. Pour produire ce monde, nous avons dû le projeter à partir de notre pensée. Tout ce que nous voyons autour de maintenant, collectivement, sont des objets, les planètes et les objets sur cette planète sont des images que nous avons fabriquées à partir de notre esprit. Donc là, il y a un sens collectif cette leçon, un sens individuel à cette leçon, c'est que tout le sens que nous donnons à chaque objet vient de notre propre pensée. Nous avons fait cela comme une défense pour fuir ce que nous pensions être le menace venant de l'unité venant de Dieu, et aussi pour jouer tous nos jeux de culpabilité et d'individualité ici, mais premièrement comme une défense. Nous ne voulions plus penser à retourner à l'unité ou au danger de l'unité, au danger de Dieu. C'est pour cette raison-là que nous avons rendu et que nous rendons les choses autour de nous de plus en plus réelles, pour nous empêcher de voir à l'intérieur de l'esprit où nous allons trouver la pensée de séparation avec son lot de culpabilité. C'est la raison pour laquelle nous insistons autant sur les objets autour de nous comme les véritables objets objectifs avec leur propre existence indépendante de notre pensée. Nous n'aimons pas trop l'idée d'imaginer que ces objets sont juste la projection de notre esprit. Nous avons envie, voire besoin, notre ego, de penser que nous vivons dans un monde d'objets objectifs qui ont leur réalité indépendante de nous. Selon le cours, ce n'est pas le cas. Donc, un message important ici est d'arrêter de regarder le monde de la même façon, surtout d'arrêter de porter notre attention sur le monde de cette façon obsessive, de trouver, toujours trouver explication à ce qui nous arrive dans ce monde, et maintenant de porter cette attention à l'intérieur de notre esprit pour trouver la raison de nos expériences, de nos ressentis, de nos émotions, de nos souvenirs, de nos rancœurs. Regardons à l'intérieur de nous. Un passage un peu étrange ici, c'est le paragraphe 2, quand Jésus commence à parler des petites franges de lumière. Et il ne faut pas aller trop loin avec cette idée, puisqu'en fait, il y a une petite histoire ici. C'est qu'à l'époque de l'écriture de ce passage, Bill et Ellen, les auteurs du cours, avaient un ami avec lesquels ils suivaient, qui suivait un petit peu leurs activités avec le cours, qui lui commençait à connaître des épisodes de voir des petites franges de lumière autour des objets. Jésus, il a inclus ce petit phénomène très personnel à cette personne dans cette leçon. Mais ce n'est pas vraiment intentionné pour tout le monde. L'intention n'est pas, certainement pas, de nous inciter à chercher ces épisodes lumineux avec des objets autour de nous. Kenneth nous met en garde dans son livre Voyage dans le livre d'exercice d'un grand miracle, nous met en garde en disant que si vous essayez de faire cela, soit vous allez tomber dans la culpabilité ou l'autocritique parce que vous ne voyez pas ces franges de lumière, soit si jamais vous les voyez, vous allez tomber dans l'auto-glorification, dans l'arrogance et dans la particularité. Donc il dit d'éviter toute idée de vouloir chercher à voir ces franges de lumière. On peut comprendre il peut y avoir un genre d'allègement de notre esprit en regardant les objets d'une façon différente. Quand nous commençons à comprendre que les choses n'ont pas le sens qu'on leur avait toujours donné, ce qui était toujours un sens extrêmement lourd, soit d'être un objet extrêmement utilitaire pour nous, qui nous profitait d'une façon ou d'une autre, ou un objet qui pouvait nous faire du mal. Quand nous enlevons toutes les interprétations que nous avons posées sur tous les objets autour de nous, nous pouvons les percevoir d'une façon plus légère, est-ce que j'ose dire lumineuse. Donc on peut faire un petit rapprochement avec ça, avec cette idée de lumière et de pardon. Mais il faut pas aller trop loin, il faut pas chercher, voilà, à rendre les objets particulièrement lumineuses dans notre perception. Donc, une leçon peut-être plus simple si nous restons vraiment avec la simplicité et si nous n'essayons pas d'aller trop loin et d'imaginer que tous les objets autour de nous n'ont aucune réalité objective en elle-même. Il faut qu'on reste tout à fait normal. Donc, je vous souhaite très bonne pratique avec cette leçon. C'est tout ce qui est nécessaire pour une première lecture de cette leçon. Et maintenant, je voudrais parler aux étudiants expérimentés quelques minutes pour aller un petit peu plus loin. Jésus dit dans cette leçon, je pense que c'est la première phrase. Il dit, c'est parce que les pensées que tu penses penser t'apparaissent comme des images que tu ne les reconnais pas comme n'étant rien. Et la première partie de cette phrase est assez curieuse. Il ne dit pas, c'est parce que les pensées que tu penses. Il dit, c'est parce que les pensées que tu penses penser. Ouais. Et Jésus, Kenneth, dans son livre, Voyage dans le livre d'exercice d'un grand miracle, il dit, mais c'est très intéressant, mais c'est fait exprès, ce n'est pas fait par hasard. C'est encore une petite façon subtile dont Jésus essaie de nous imprégner avec une vérité, une réalité extrêmement importante, extrêmement difficile à saisir. Les pensées que nous pensons ne sont pas nos pensées réelles. Une fois que nous avons commencé à comprendre ce que sont nos pensées réelles, nous allons voir que tout ce qui a rempli notre tête avant, mais c'était du blabla, c'était du n'importe quoi. Une pensée d'amour pur, totalement universelle, là, c'est une pensée vraie. Imaginons un instant toute la blabla qui remplit notre tête tous les jours, mais ça n'a aucune valeur, aucune. Donc, ce ne sont pas nos pensées vraies, parce que ce sont pensées, ces pensées sont pensées avec un esprit qui n'est pas vrai. Les pensées ne sont pas vraies parce que le penseur n'est pas vrai. Bon, pour les étudiants qui ont déjà fait cet exercice, cette leçon une fois, nous pouvons aller un petit peu plus loin. Et regardez, mes pensées sont des images que j'ai faites. Les pensées que je pense ne sont pas mes vraies pensées, ne sont pas réelles. Parce que le penseur lui-même n'est pas réel. Allons encore un peu plus loin. Mes pensées sont des images que j'ai faites, les images que je vois autour de moi viennent de mes propres pensées. Tout d'abord, en termes de des objets qui remplissent mon quotidien, l'interprétation, le sens qu'ont ces objets pour moi, c'est très personnel. Mon ordinateur pour moi n'est pas la même chose que mon ordinateur pour ma femme ou mon téléphone, vice-versa. Ces objets, en réalité, sont très personnels pour moi, sur un niveau individuel. À un niveau plus global, nous avons fabriqué cette cosmos ensemble. Ce cosmos est une image que nous avons faite. Cosmos, image que nous avons faite ensemble, collectivement. Donc, j'ai envie de vous inviter à réfléchir plus profondément à tout ce que vous voyez ici, parce que dans cette leçon, Jésus nous invite dans le quatrième paragraphe. Il dit, cette leçon à tout ce que tu vois autour de toi, en nommant chaque chose et en laissant ton regard se poser sur elle en disant, ce ou cette chose est une image que j'ai faite. Si vous faites cet exercice pour la deuxième fois, je vous invite à ne pas limiter votre perception à ce que vous voyez autour de vous, mais à mais à tous les objets que contient ce monde, tous les objets que contient votre vie. En pensant pas simplement aux objets, mais également aussi aux personnes. Donc nous pouvons aller plus loin en disant, cette guerre est une image que j'ai faite, que nous avons faite collectivement. Cette personne est une image que j'ai faite, que nous avons faite collectivement. Allons encore un peu plus loin. Je suis une image que j'ai faite. Je suis une image que j'ai faite. Quand je me regarde dans le miroir, je suis une image que j'ai faite. Ce monde est une image que j'ai faite et que nous avons faite collectivement. Cet univers est une image que j'ai faite et que nous avons faite collectivement. Je voudrais vous inviter à faire une petite méditation sur cela, si vous voulez bien. On peut fermer les yeux et réfléchir à cela quelques instants. Et je vais finir cette méditation avec la lecture de la leçon 264, Je suis entouré de l'amour de Dieu, qui sera une très belle façon d'arrondir et de finir cette séance sur ces deux leçons ce soir, puisque ça parle spécifiquement du temps qui disparaît et ce lieu qui devient une croyance insignifiante quand nous nous sentons entourés de l'amour de Dieu. Donc si vous avez bien, si vous avez envie de fermer vos yeux avec moi quelques instants, Nous pouvons juste finir la séance de cette façon douce et calme. Nous souvenons des paroles de Jésus dans cette leçon, quand il nous invite avec tendresse, avec franchise, oui, avec courage, oui, mais aussi avec tendresse et douceur, à penser à tous ceux qui traversent le champ de notre conscience. En disant que cela, tous ces objets, toutes ces personnes n'ont pas la réalité que je leur ai donnée. Elles sont encore réelles pour moi dans ma perception et dans mon expérience. Mais je suis en train d'apprendre qu'elles n'ont pas entièrement cette réalité que je leur ai donnée. Chaque objet que contient ce monde, chaque personne qui vit dans ce monde, existe aussi dans une autre dimension, encore plus réelle que celle-ci. C'est uniquement au moment quand je peux enlever l'importance que j'ai donnée à tous ces objets, à toutes ces situations, à tous ces événements et à toutes ces personnes, que je peux commencer à comprendre et à voir avec la vision de mon grand soi, qui m'apprendra la vraie nature de ce monde et la réalité de notre véritable demeure. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant et derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends et dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, le temps disparaît. Et le lieu devient une croyance insignifiante. Car ceux qui entourent ton fils et le gardent en sécurité et l'amour même. Il n'y a de source que celle-ci, et il n'est rien qui ne partage sa sainteté. Nous venons à toi en ton propre nom aujourd'hui, pour être en paix dans ton amour éternel. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Pensant encore au message de cette magnifique méditation, Je suis entouré de l'amour de Dieu. Encore quelques instants. Et puis, quand vous vous sentez prêt, je vous invite à remettre un peu de mouvement dans votre corps et porter votre attention à l'extérieur si vous souhaitez sortir de cette méditation. Sinon, bien sûr, vous pouvez juste baisser le son sur votre appareil. Merci beaucoup d'être venu. Si vous devez nous quitter maintenant, merci encore d'avoir participé avec nous ce soir. Votre présence fait toujours une différence et toujours précieuse. Donc, merci. Encore si vous êtes ici pour la première fois, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez encore quelques minutes, je peux rester avec vous. Nous pouvons discuter ensemble, nous pouvons faire connaissance. Je voudrais surtout avoir vos retours sur la séance ce soir, puisque nous sommes allés un peu loin quand même dans la métaphysique du cours. J'ai trouvé personnellement que Jésus, il a enlevé les gants avec ces deux messages, ces deux leçons. J'étais assez surpris quand je les ai vraiment épluchés ensemble avec Kenneth et son livre Voyage dans le livre d'exercice du cours, de voir jusqu'où en fait on peut monter dans la stratosphère de la métaphysique du cours avec ces deux leçons. Donc j'étais content de les présenter, mais j'avoue, ça me faisait travailler pour réfléchir à comment je pouvais rester, et nous aider aussi à garder les pieds sur terre. Donc j'espère que je n'ai pas échoué. Aussi, un petit moment sur notre fonctionnement. En deux mots, nous avons besoin de vous. Voilà, c'est nous avons besoin de vous. Cinq mots. Voilà, nous avons besoin de vous. C'est-à-dire, c'est un système d'échange. Nous préparons ces cours comme si c'était une école, une fac, des leçons, vraiment des leçons de philosophie, des cours de philosophie. Voilà, nous nous préparons avec beaucoup de sérieux, aussi bien les vidéos que nous avons faites après, et les fiches pratiques et les audios maintenant MP3. Pour faire tout cela, nous avons besoin de vous. Voilà. La meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner en quelque sorte. On invite les abonnements volontaires. Une contribution libre, mais en forme d'abonnement, c'est-à-dire une petite participation par mois. Ça nous donne le meilleur, le plus de clarté possible pour l'avenir pour nous, pour savoir ce que nous pouvons faire, le temps que nous pouvons consacrer à cette activité. Ce que vous pouvez organiser, vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Pas besoin des grandes sommes, mais juste les petites sommes mensuelles. Pour chaque cours, pour chaque séance, pour chaque semaine, pour les vidéos, pour les cours, pour les fiches, pour les audios, etc. Pensez à un équivalent de je ne sais pas quoi. Mais voilà, nous vous encourageons à faire ce petit geste et de trouver une façon de participer. Ça nous aiderait vraiment beaucoup à savoir comment nous consacrer cette activité. Parce que j'avoue que ce nouveau programme nous demande beaucoup plus de temps, voilà. Et qui enlève des autres activités que nous essayons aussi de faire. Très bien, merci, merci beaucoup. Merci bien sûr infiniment à ceux qui contribuent déjà, à nos soutiens, à nos contributeurs. Et si nous sommes ici en train de faire cette activité, c'est grâce à vous entièrement. Sans vous, on ne sera pas là. Suzanne qui dit vraiment pas facile d'expliquer tout ça. Merci, merci Suzanne. Je suis content. Une autre Isabelle qui dit merci, je reste sans voix vis-à-vis de ces leçons, beaucoup d'interrogations. Merci beaucoup. Isabelle, vous pouvez m'écrire un petit message dans le fil de chat où vous pouvez ouvrir votre micro parce que je vous permets maintenant d'ouvrir votre micro. Je vois que Loïc l'a déjà ouvert, donc je vais lui dire un petit bonjour. Donc Isabelle, c'est plein d'interrogations. Je ne voulais pas. La raison pour laquelle nous offrons ces explications, ces leçons sur les cours, sur les leçons, c'est parce qu'effectivement, beaucoup de personnes qui entament le cours pour une première fois voudraient commencer avec les leçons. Oh, les leçons sont très ardues, aussi ardues que le texte en quelque sorte. Et donc, les gens, ils calent sur les leçons. J'entends très souvent, j'ai calé à la leçon 20, j'ai calé à la leçon 30, j'ai calé après 10 leçons. Les 30 premières leçons sont parmi les plus difficiles. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour aider, faciliter le mouvement, le progrès avec ces leçons, c'est ce que nous essayons de faire. Voilà. Donc, je vous invite vraiment sincèrement à nous faire un petit retour sur ces difficultés. Donc, je vois que Loïc, tu étais là, je pense. Oui, je vois que Christine est aussi là. Bonsoir, Loïc.
Ouais, bonsoir Bernard. Tout d'abord, merci pour tout ton travail. Je prends conscience que c'est, enfin, j'ai bien conscience que c'est un travail de titan. Justement, ce qui me questionne, c'est, tu vois, quand toutes ces leçons, toutes ces premières leçons, elles déstructurent bien toute notre façon d'être au monde. Ça déstructure complètement notre personnalité. Parfois, ça peut être un peu angoissant. Et je me demande comment tu fais pour rester engagé dans la vie. Par exemple, moi, je pourrais avoir une tendance de fuite, c'est-à-dire de vouloir m'endormir face à tout ça, tellement ça paraît vertigineux. Et c'est comment se tenir face à ce vertige en restant engagé dans la vie. Parce que quand on prend conscience, pour faire quoi? Quand on prend conscience que tout n'a aucun sens, on a le sens que ce qu'on lui donne, enfin, on a le sens qu'on donne au monde. Du coup, rien n'a de sens. Comment rester engagé dans la vie?
Je me demande si j'avais pas mis un petit mot par rapport à ça. Peut-être je l'ai pas souligné assez. Le monde a un sens. Le monde a une signification. Mais elle n'est pas celle que notre ego lui a donnée. Et c'est tout le sens du parlant. Donc il y a une richesse absolument extraordinaire à regarder autour de nous. Il y a une autre façon de garder nos yeux vraiment fixés sur ce que nous voyons, ne pas nous détacher, ne pas nous décrocher, mais de le voir d'une façon complètement différente. Quand on comprend que ce qui nous dérange n'est pas ce qui est en train de se passer, mais ce que notre ego est en train de faire avec ce qui est en train de se passer. Les gens souffrent, les gens meurent, les gens sont torturés, oui, mais il se passe aussi autre chose en même temps. Chacun est accompagné à chaque instant par une présence qui l'aime tellement profondément que si seulement l'esprit de la personne pouvait se retourner vers ce guide, cela l'apaiserait immédiatement et il vivrait ces circonstances épouvantables d'une façon beaucoup plus apaisée et calme. Il y a des moines bouddhistes au Tibet qui ont terriblement souffert aux mains des Chinois, qui ont fait preuve d'exactement cela, de comment il est possible de souffrir d'une façon atroce physiquement, mais pas mentalement et psychiquement et spirituellement. Donc, il se passe autre chose chaque fois quand nous voyons les gens souffrir. Cela n'est jamais pour diminuer le niveau de souffrance tel que la personne le vit dans sa pensée, dans son esprit. Mais cela nous aide, nous, à savoir qu'il est possible de voir la souffrance de ce monde et d'autres personnes différemment. Alors, si je n'arrive pas à atteindre cette vision sage de cette souffrance, c'est parce que mon ego est toujours en train de profiter de la souffrance de ces personnes pour dire, et moi, je souffre aussi. Donc ça, c'est ma projection. Quand moi, je profite en quelque sorte, inconsciemment, de la souffrance d'autres personnes pour dire, non mais mince, pour ne pas dire un mot plus fort, regarde Dieu, la souffrance existe dans ce monde et c'est ton monde d'ailleurs. Comment tu as pu être si cruel? de créer un monde où les gens pouvaient souffrir autant, d'ailleurs, j'en suis une. Et de voir les jeux que notre ego fait pour nous garder dans une dynamique épouvantable dans ce monde. Et quand on entend les paroles du cours, tout cela est juste une vaste illusion. Ça, on veut tellement du décrocher, pas pour les bonnes raisons, mais parce que c'est trop pénible de faire cette transformation de l'ego, de nous extirper de l'ego. C'est beaucoup plus facile de dire, j'en ai marre, c'est trop difficile, c'est trop dur. Ça serait tellement plus facile de juste faire pouf, Dieu, prends-moi, ton monde est tellement beau, tellement magnifique, j'ai plus envie de rester ici. Kenneth nous dit non, il faut qu'on reste ici pour transformer ce qu'on voit. Parce que sinon, quand on meurt ou quand on fait pouf, on va juste garder cette âme d'ego avec nous. La douleur dans notre esprit, la difficulté dans notre esprit vient du fait qu'on est inconsciemment extrêmement attaché à la dualité et à notre petit soi. Et de ce fait, on va donner une importance et une réalité au petit soi d'autres personnes. Or, chaque instant, nous sommes autre chose et eux, ils sont autre chose aussi. Les choses sont en train de se passer d'une façon vraiment, vraiment différente. Même la relation entre victime et bourreau n'est pas par accident. Mais ça, c'est une toute autre question. Je ne sais pas, Loïc, si j'ai pu répondre même un tout petit peu à ta
Et
question.
ce que je peux entendre, juste pour clarifier, c'est que, en tout cas, c'est de me servir du monde comme une occasion de pardon dans ce que tu me dis, c'est-à-dire quand tout, parce que parfois tout me paraît sans absurde. Et face à l'absurde, sentir que ce que je peux en tirer, c'est des occasions de pardon. Chaque
D'accord.
fois que je suis activé par une situation, que je suis touché par, que ce soit dans un sens comme dans un autre, je peux en faire une occasion de regarder ce qui me lie au monde.
Qu'est-ce que et j'ai c'est exactement ça. J'ai envie de te demander ce que tu veux pardonner. C'est important. Quand tu dis une occasion de pardon, absolument. Si c'est pour pardonner les bourreaux, c'est pour
Non,
pardonner.
non, pour pardonner mon lien au monde.
Pardon?
Pour pardonner mon lien au monde, mon attachement au monde.
D'accord. Et le leur également, mais avec joie et légèreté. Nous sommes absolument fous d'avoir choisi cette expérience terrestre, de cette expérience de dualité. Quel mauvais choix. Heureusement, ça n'a eu aucune conséquence réelle. Heureusement, comme Kenneth nous disait, nous sommes tous toujours dans nos grands fauteuils au ciel, simplement en train de regarder sur nos tablettes un monde dans lequel il se produit telle ou telle chose. Ah, regarde-moi, là, c'est moi en 2026, quand j'ai vraiment souffert aux mains de cette personne. C'était sa façon de créer une métaphore pour nous aider à comprendre que nous partageons notre conscience, notre esprit avec une autre dimension où nous sommes toujours à chaque instant. Nous avons l'habitude de ne ressentir que cela, cette dimension ici, de rendre ça extrêmement réel et de rendre cette réalité, la réalité humaine et physique, très réelle chez les autres aussi. Or, il se passe toujours autre chose en même temps. Nous sommes tous en train de visionner, de vivre cette vie ici, mais d'un ailleurs, en train de nous projeter dans ces corps. Et cela, tout cela peut nous aider à radoucir notre expérience et nous aider à trouver la joie, même en étant ici, dans ce monde de fous, de savoir qu'à chaque instant, nous sommes aussi dans le jardin d'Éden, au ciel. Tu as lu mon livre?
Oui, bah j'y pensais fortement.
Ouais.
J'allais t'en parler, j'allais dire, mais dans ton livre, tu expliques bien
La
quand tu
scène
es
à la fin.
endormi là-haut et que tu es en train
Exact.
de rêver. Et j'étais avec ça, de se réveiller tranquillement. Mais je trouve que c'est ce que tu viens de décrire à l'instant, c'est vraiment un exercice d'équilibriste entre
Ah oui,
être
complètement.
engagé dans la vie illusoire tout en se désengageant. Je sais pas si c'est clair, tu vois.
Oui,
Il faut.
on se désengage de
Tout
la
en te.
dualité, mais,
Ouais, exactement.
ouais, mais pas de ni de des personnes, ni des scènes, ni des situations, ni des obligations familiales, juste de la dualité que nous avons imposée, transposée ou superposée sur chaque situation, à savoir qu'il y a une unité derrière, la grande unité, et il y a même une unité ici qui dit: nous sommes en train de vivre cette expérience ensemble comme un collectif que nous avons choisi ensemble. Et en même temps, nous sommes toujours dans le grand fauteuil au ciel ou allongés sur les grandes prairies devant les portes du ciel comme dans mon livre. C'est un équilibre,
Ouais.
tout à fait. Ouais. Kenneth, il est entièrement engagé, ouais. Très, très actif.
C'est ça qui est troublant, mais bon, je vais pas prendre toute la place, mais en tout
Bah,
cas, merci
ouais. Oui, je vois que.
pour ces mots.
Merci, merci beaucoup, Loïc. Oui. Christine, tu as toujours envie?
Oui, j'avais pas. En fait, je voulais pas dire un truc spécialement intéressant, mais c'était juste que je voulais juste témoigner que, en le refaisant, en fait, je trouvais que c'était encore très difficile, les premières leçons. Et comme j'étais à peu près à la 150 il y a quelque temps, et puis je me suis dit, mais quand même, toutes ces premières leçons, elles sont tellement riches, et puis j'arrive pas à... Et c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai repris avec toi pour le faire vraiment du début au même rythme, parce que moi, je trouve que eh ben, ça m'apporte quand même une grosse compréhension en plus. C'est-à-dire que mon esprit, je vois que mon esprit résiste beaucoup à comprendre. Parce que quand tu l'expliques, je vois que j'avais touché le truc. Mais j'avais pas vraiment mis des mots aussi bien que toi. Et voilà, là, je suis très contente en fait d'avoir repris. je me dis, voilà, si j'arrive à faire tout en même temps que toi, je. Peut-être une chance de mieux comprendre. Mais c'est pas que je comprends pas intellectuellement, c'est que je résiste tellement. Voilà, et je me fais
On
le mental,
résiste.
et après je l'oublie, je pars ma journée, et ça y est, voilà, je résiste, quoi.
Et après, on revient, après, on oublie, après, on revient, et après, on l'applique à moitié, et on oublie. C'est normal. Notre désir n'est pas encore vraiment si fort que ça, déjà. C'est pour ça que plus tard, on va faire plein de leçons sur notre vrai désir, notre vrai souhait profond. Notre désir n'est pas encore vraiment assez grand pour nous porter peut-être plus loin. Ce qu'il faut, il faut presque vouloir ne vouloir ne plus être la personne et l'esprit qu'on pense être. Mais pas pour les mauvaises, pas pour les raisons négatives, pas parce qu'on n'aime pas. Mais parce que c'est une version tellement, tellement petite de ce que nous sommes. Mais sans renier et sans refuser et sans exclure la personne que nous pensons être. Mais juste par une envie de savoir de quoi ce gars il parle dans ce livre. Parce que je ne peux pas prendre le petit soi avec moi. Et il faut que je considère la possibilité que mon petit soi, garder mon petit soi, ne soit qu'un frein à la conscience de cette autre expérience. C'est même pas le petit soi qui est un frein. Le petit soi est une hallucination, une image. C'est le fait de m'y investir et d'en faire une grande histoire. Cela ne nous retient pas. C'est tout ce qu'on veut qu'il soit. Donc, vouloir autre chose plus que je vouloir être, je veux être moi-même. C'est même difficile d'en parler. Mais oui, on est vraiment là-dedans avec ces premières leçons. C'est pour ça que je suis des fois un peu surpris par Jésus, sa manière pédagogique de faire avec ses premières leçons. Je trouve qu'il va un peu loin. Mais en même temps, il nous dit de ne pas en faire une grande histoire. Il nous dit carrément, tu vas pas les comprendre, c'est pas grave. Il faut juste les faire. Ça me gêne un peu. de les faire dans ce programme, de les faire de cette façon un peu intense. Quand lui, il dit de ne pas les faire trop, de ne pas les approfondir trop, j'ai l'impression que je vous fais faire cela. Et ça me gêne un petit peu. Je sais, donc j'ai dit, bon, la personne qui sent que ça va trop loin, elle va savoir qu'il faut pas, il faut pas trop insister, il faut arrêter. Mais bon, en même temps, je regarde Ken, je fais que le travail de Ken, je dis, bah, si Ken, il en parle avec autant de profondeur, bah, quelque part, ça doit être autorisé, autorisé, parce qu'il va encore plus loin que moi.
Oui.
Et je ne peux pas tout dire dans ces leçons en un temps limité. Mais donc, merci moi aussi pour ton retour. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voudrais.
Non, c'est super, merci beaucoup.
OK.
Merci Bernard.
Merci, merci beaucoup, Christine. Merci. Et j'essaie juste de voir s'il n'y a pas eu d'autres messages ou commentaires même. Et si vous avez, si une autre personne, je sais qu'il y avait Isabelle, vous avez dit que vous avez des interrogations par rapport à cette séance. Je ne sais pas si vous avez envie de me faire un petit mot dans le fil de chat. Vous pouvez aussi m'écrire personnellement si vous ressentez le besoin à notre adresse accueil@uncoursenmiracleenfrance.com. Voilà, s'il y a d'autres personnes qui aimeraient bien prendre la parole, faire un petit retour ou ajouter une petite question par rapport à ces leçons qui sont, c'est vrai, elles sont pas évidentes. Vraiment, j'ai dit au début, ces deux petites bombes atomiques, une bombe nucléaire, métaphysique. Très bien. Très chers amis, je pense que c'est très calme. Finissons peut-être cette séance sur cette note calme. Finissons peut-être avec une relecture de cette magnifique leçon. Je peux vous relire cela et ça peut être notre petite méditation de fin, après laquelle on peut juste dire nos au revoir tout doucement, on peut brancher nos micros et nous faire nos au revoir pour cette dire nos au revoir pour cette semaine. Leçon 264, je suis entouré de l'amour de Dieu. Père, tu te tiens devant et derrière moi, à mes côtés, à l'endroit où je me vois moi-même et partout où je vais. Tu es dans toutes les choses que je regarde, dans les sons que j'entends et dans chaque main qui se tend pour prendre la mienne. En toi, le temps disparaît et le lieu devient une croyance insignifiante. Car ceux qui entourent ton fils et le gardent en sécurité est l'amour même. Il n'y a de source que celle-ci, et il n'est rien qui ne partage sa sainteté. Nous venons à toi en ton propre nom aujourd'hui pour être en paix dans ton amour éternel. Je suis entouré de l'amour de Dieu. Merci encore, très chers amis. Au grand plaisir de vous voir la semaine prochaine si vous souhaitez. Et nous vous enverrons notre fiche pratique si vous êtes sur notre liste d'envoi. Si vous êtes ici pour la première fois, peut-être que vous ne savez, vous n'êtes pas au courant. Pour vraiment profiter et tirer pleinement profit de ces leçons, nous envoyons des notes explicatives et supplémentaires sur ces leçons tous les jeudis, vendredis à peu près. Donc, aux personnes qui sont inscrites sur notre liste de fiches pratiques, liste d'envoi pour les fiches pratiques, vous pouvez vous inscrire aussi pour le recevoir en allant sur notre site bernardgroom.com où vous allez trouver sur la page d'accueil le bouton pour vous inscrire. Je parle particulièrement peut-être pour les personnes qui sont ici pour la première fois. Encore, merci beaucoup. Ouvrons nos micros pour nous souhaiter une très bonne fin de soirée et une très bonne semaine. Et disons nous au revoir sur 5. Merci.
Bonne
À
soirée.
Au revoir.
quatre.
Bonne semaine.
Bonne
Bonne semaine.
très bonne semaine à tous. Merci.